أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
La traduction de ce verset est comme suit. Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la maison, tout en implorant, notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Notre Seigneur, fais-nous tous deux soumis à toi. Et fais de notre postérité un peuple soumis à toi. Et montre-nous nos façons de prier. Et tourne-toi vers nous avec clémence. Car tu es celui qui revient sans cesse avec compassion. Tu es le miséricordieux. Notre Seigneur élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes qui puisse leur réciter des signes, leur enseigner le livre et la sagesse, et qui puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, tu es le sage. Dans ces versets, l'on trouve ces grands exemples et ces prières qui nous présente l'humilité, le sacrifice, la fidélité. Ces versets nous présentent le souci que l'on a concernant ses descendants pour qu'ils soient toujours attachés avec Dieu et des prières à cet effet et le fait que l'on prie pour la direction de l'humanité. L'on trouve aussi mention des prières qu'ils ont faites pour qu'ils soient des serviteurs d'Arahman et des soucis qu'ils avaient à ce sujet. Dans ce premier verset, l'on trouve mention de ce grand sacrifice, sacrifice consenti par Hadrat Ibrahim alayhi salam et par Hadrat Ismail alayhi salam. Chaque pierre qu'il plaçait sur la Kaaba témoignait du fait que, une fois cette maison construite, le père va laisser son fils ici et va laisser aussi ses descendants dans ce lieu désert pour toujours. Et le père a fait comprendre à son fils que maintenant tu dois vivre dans ce lieu désert afin d'habiter cette maison. Et ces deux pieux personnages, ces deux prophètes de Dieu, avaient certitude quant à l'accomplissement des promesses de Dieu, à savoir que cette maison sera un jour le centre du monde. Mais ils ne savaient pas quand allait s'accomplir cette promesse. À l'époque, on ne voyait que les sacrifices. Mais en dépit de cela, ils ont fait preuve d'une grande humilité. Ils étaient en train de prier en disant que nous sommes en train de construire cette maison de par ta grâce. Ainsi, accepte nos sacrifices. Il n'y avait point de vantardise. Il n'avait point dit que nous avons accompli une œuvre grandiose et nous devons être récompensés. Et nous devons être récompensés rapidement. Ils se sont adressés à Dieu qui exauce les prières et qui écoute les prières en disant « Ô notre Seigneur, écoute nos prières ». Nous avons fait le sacrifice que nous devions faire et nous faisons la promesse que nous allons faire des sacrifices à l'avenir. Et nous désirons que nos descendants participent dans ces sacrifices. Voilà donc les prières faites par ces deux personnages. Ensuite, en s'adressant à Dieu, ils dirent « Nous t'avons présenté l'état de notre cœur. Toi, tu es Alim, tu es omniscient. » Tu sais que nous sommes en train de faire tout cela pour ton plaisir. Tu sais que nous sommes en train de dire cela uniquement pour avoir ton plaisir. Accepte donc ces sacrifices de notre part et fasse que cette maison soit une maison qui t'appartient et que cette maison qui soit une maison bénie, que ce lieu désert soit rempli d'habitants. Nous avons compris tes commandements et nous avons traduit cela dans la pratique en bâtissant cette maison, afin que ce lieu soit un centre d'habitation. Mais, ô notre Seigneur, cela dépend de ta grâce. Accorde perspicacité et vision à ces gens qui vont venir habiter ce lieu, afin qu'ils puissent l'atteindre. Fasse que ces gens grandissent dans leur spiritualité. Voilà l'esprit avec lequel les musulmans bâtissent des mosquées. Voilà l'esprit avec lequel ils doivent bâtir ces mosquées. Sinon, de beaux édifices n'ont aucun sens. Certainement, on bâtit de belles mosquées. Mais il n'y a plus cet esprit derrière ces mosquées. On ne trouve plus cet objectif derrière la construction de ces mosquées. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'on ne doit pas décorer ou orner les mosquées, tout comme les gens des autres religions ornent ou décorent leur lieu de culte. Mais nous voyons de tels ornements, de telles décorations dans certaines mosquées. Certains rois ont même embelli ces mosquées avec de l'or. Mais la beauté de ces mosquées ne dépend pas de cet or, ne dépend pas de ces décorations. La beauté de la mosquée réside dans les personnes qui viennent y prier, des personnes qui viennent y prier uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. Hadrat Muslim Aoud, le deuxième calife, avait évoqué un point à ce sujet. Il a déclaré qu'il avait visité l'Égypte où il a trouvé une belle mosquée. Il a vu qu'il n'y avait que quelques personnes qui priaient dans un coin, dans cette mosquée. Il leur a demandé quelle est toute cette histoire. L'imam de la mosquée qui était en train de diriger la prière lui a dit que les gens ne viennent pas prier dans cette mosquée. Et tout embarrassé, je ne peux pas me mettre dans la niche pour diriger la prière. Pour que les gens ne disent pas qu'est-ce qui se passe dans cette mosquée. Une si grande mosquée où il n'y avait que 4 ou 5 personnes qui sont en train de prier. C'est pour cette raison que nous prions dans un coin. Afin que les gens croient que la prière est terminée et que ces personnes sont en train de prier après l'heure prescrite. Mais nous voyons aussi d'autres situations, c'est-à-dire que des gens partent à la mosquée. Ces mosquées sont remplies, certes, mais généralement, les cœurs sont vides de cet esprit qui doit accompagner ces gens qui partent prier dans la mosquée. Les pensées qui ont trait aux choses de ce monde les accablent même au cours de la prière. Ils ne consacrent pas toute leur attention vers Dieu au cours de la prière. C'est pour cette raison que nous devons nous souvenir de ce fait, à savoir que lorsque nous bâtissons des mosquées, nous devons bâtir ces mosquées pour que l'on puisse avoir le plaisir de Dieu. Et nous devons remercier Dieu pour les sacrifices qu'on a faits pour bâtir cette mosquée. On ne doit pas en être fier. Car ces sacrifices que nous avons faits pour bâtir cette mosquée, eh bien, ces sacrifices sont insignifiants, n'ont aucune importance face aux sacrifices du prophète Ismaïl alayhi salam. Nous ne sacrifions que nos biens. Et généralement, on sacrifie ses biens selon ses revenus, certainement. Aujourd'hui, c'est un très grand sacrifice que l'on est en train de faire, que de sacrifier ses biens pour un objectif noble, le fait de changer de priorité et de faire ses sacrifices financiers, et certainement bâtir une mosquée est une œuvre louable. À plusieurs reprises, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a attiré notre attention à ce sujet. Ainsi, de telles personnes qui vont faire ce sacrifice seront récompensées par Dieu. Par la grâce de Dieu, la Jamaat ici en Occident est en train de porter son attention à ce sujet. Et on est en train de bâtir des mosquées. Et nombre de personnes ont changé de priorité à tel point qu'ils ne sacrifient plus de leurs revenus excédentaires, mais se mettent en difficulté pour faire ces sacrifices. Mais on doit toujours se souvenir de ce fait que l'on ne doit jamais être fier de ses sacrifices. On a dépensé environ 1 200 000 livres sterling pour bâtir cette mosquée. Et la Jamaat d'ici a fait la promesse pour recueillir cette somme. Et par la grâce de Dieu, ils ont déjà contribué cette somme, environ 75%. Certains ont fait de grands sacrifices, certains ont contribué 78 000 livres sterling, d'autres ont contribué 88 000 livres sterling. Et d'autres ont contribué individuellement 20 ou 30 000 livres sterling. J'ai regardé les promesses de 11 personnes qui ont contribué à elles seules 300 000 livres sterling. Ce sont de grands sacrifices consentis par les membres de la Jamaat. Mais tout sacrifice doit nous pousser à faire preuve d'une plus grande humilité. Car en dépit de tout cela, regardons l'exemple que Dieu nous a présenté. Cet exemple est que tous nos sacrifices sont insignifiants, n'ont aucune importance. Ensuite, ces sacrifices vont porter leur avantage lorsqu'on va remplir ces maisons. Là-bas, c'était un lieu désert où il n'y avait aucun habitant. Et Dieu a bâti une maison là-bas. Et ces pays, ces terres d'ici sont arides spirituellement. Et nous allons devoir rendre ces régions verdoyantes. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de bâtir des mosquées ici en Europe. C'est donc une tâche très louable. C'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. Il ne suffit pas de venir remplir nos mosquées uniquement le vendredi. On doit être présent pour les prières aussi. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'ouverture de cette mosquée. Nous devons prier « Rabbana taqabbal minna inna kanta samiul alim ». Ainsi, nos sacrifices financiers seront exaucés par Dieu lorsque nous allons faire la promesse avec Dieu et lorsque nous allons prier que « accepte nos sacrifices et fasse que nous puissions progresser spirituellement ». Et fasse que nous ayons l'occasion de venir remplir cette mosquée. Car tu sais que nous avons bâti cette mosquée uniquement pour que l'on puisse t'adorer. Et fasse que ces gens qui habitent dans la région puissent progresser, elles aussi, dans la spiritualité. Car nous sommes en train de bâtir cette mosquée pour que l'on puisse se souvenir de toi. Ainsi, accepte nos sacrifices et fasse que nous puissions progresser spirituellement pour que nous puissions nous rapprocher de toi, pour que nous puissions hériter de ton paradis. Dans un hadith qui a été cité dans le recueil Musnad Ahmad bin Hanbal, il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré qu'au jour de la résurrection, Dieu le Tout-Puissant va déclarer qu'on va comprendre, on va savoir qui sera honoré aujourd'hui. Quelqu'un a demandé au saint prophète qui seront ceux qui seront honorés. Le saint prophète a déclaré ceux qui viennent à la mosquée pour se souvenir de Dieu. Dans ce hadith cité dans le recueil Bukhari qui a été mentionné par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré « Celui qui vient à la mosquée matin et soir, Allah va préparer pour lui au paradis son accueil. » Allah va préparer pour lui son accueil. Ainsi, nos mosquées doivent être là pour que nous puissions être honorés. Qu'Allah fasse que ces mosquées ainsi que les personnes qui vont venir y prier seront aimées par Dieu. Des personnes qui vont avoir le plaisir de Dieu. Des personnes qui vont profiter de l'hospitalité de Dieu au paradis dans l'au-delà. Ainsi, chanceuses sont ces personnes qui bâtissent ces mosquées avec de telles intentions, des personnes qui viennent dans ces mosquées avec de telles intentions. Et ainsi, ces personnes méritent le paradis ici-bas et dans l'au-delà. Ces personnes ne cherchent pas le paradis de l'au-delà uniquement, mais ces personnes cherchent le paradis aussi sur terre. Dans la plupart de nos mosquées, on trouve cette inscription sous le dôme. Ici aussi, on a écrit cela sous le dôme. « Allah bizikrillahi tatmain al-kuloub ». C'est-à-dire, certainement, c'est dans le souvenir de Dieu que les cœurs trouvent leur tranquillité. Y a-t-il plus grand paradis pour celui qui a le cœur tranquille? Le désarroi qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le monde a pour cause le fait que l'on a oublié Dieu. Quant à ceux qui se souviennent de Dieu, quant à ceux qui se remémorent de Dieu, ces personnes sont prêtes à subir toute souffrance pour la cause de Dieu. Et ainsi, ces souffrances sont un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Et ces personnes ont le cœur tranquille. Il y a des centaines de personnes qui se suicident dans le monde, qui se suicident quotidiennement, tout simplement parce que ces personnes n'arrivent pas à endurer les souffrances et les tristesses de ce bas monde. Certains sont si affectés par ces tristesses, par ces souffrances, que ces personnes ont des crises cardiaques. Quelques jours de cela, quelqu'un m'a écrit du Pakistan en disant qu'il y a eu une tempête qui a frappé la région de Sheikhupura. Et cette pluie diluvienne a détruit les récoltes. Il y a un planteur qui est parti dans son champ et il a vu qu'il a perdu toutes ses récoltes. C'était une récolte de melon et en voyant cela, il a eu une crise cardiaque et il en est décédé. Voilà donc les peines de ce monde. Mais les gens de Dieu ne subissent pas de pertes en raison de ces peines. Au contraire, face à chaque chagrin, ils se tournent davantage vers Dieu. Lorsque le croyant fait face à une peine, il se tourne vers Dieu, il se place dans le giron de Dieu pour avoir la tranquillité au cœur. Dans la sourate Ar-Rahman, Allah déclare « Waliman khafa maqama rabbihi jannatan » Quant à celui qui craint son Seigneur, eh bien cette personne aura deux paradis. Ainsi, le souvenir de Dieu, le fait de l'adorer en ayant crainte de Dieu au cœur, ces personnes qui vont agir ainsi auront la tranquillité au cœur et vont recevoir ce paradis ici sur terre et auront le paradis dans l'au-delà en étant un serviteur d'Ar-Rahman. Ensuite, dans le deuxième verset que j'ai cité, le prophète Abraham et le prophète Ismaël priaient « Rabbana waj'alna muslimayn ilaka » c'est-à-dire « Ô notre Seigneur, fasse que nous soyons tous deux tes serviteurs pieux. » Encore une fois, ils ont fait preuve d'une grande humilité en dépit de tous ces sacrifices. En dépit du fait qu'ils étaient des prophètes de Dieu, ils ont fait cette prière en disant « Ô notre Seigneur, fasse que nous soyons tes pieux serviteurs. » Hadrat Ibrahim alayhisalam a laissé son épouse et son enfant dans ce lieu désert suite à l'ordre de Dieu. Mais en dépit de cela, il a prié « Fasse que je sois obéissant envers toi ». Il a donné pour la cause de Dieu sa femme et son enfant, mais il a prié, il a dit « Fasse que je sois obéissant envers toi ». Pour la cause de Dieu, il était prêt à égorger son fils. Mais en dépit de cela, il a déclaré que « Fasse que nous soyons toujours obéissants envers toi et que nous soyons parmi tes serviteurs choisis. » Voilà donc le statut que doit atteindre un croyant, à savoir qu'il ne doit jamais être fier de ses bonnes œuvres et il ne doit pas placer toutes ses confiances en ses bonnes œuvres. Jamais il ne doit être fier de ses sacrifices. Il doit toujours craindre Dieu à chaque instant. Il doit prier, « Ô notre Seigneur, nos actions sont insignifiantes. Si tu accompagnes nos actions de nos grâces, eh bien nous serons tes serviteurs choisis. Nous serons des Abderrahman. » Ainsi, nous prions et c'est là notre supplication humble, à savoir, fasse que nous puissions marcher sur les voies de la vertu, fasse que nous soyons toujours fidèles envers toi, fasse que nous puissions marcher sur les voies de ton plaisir, car voilà cet objectif sublime pour lequel l'homme a été créé. Ensuite, ils ne prient pas uniquement pour leur personne, ils prient aussi pour leurs descendants. Il prie en ce sens, c'est-à-dire, fasse que le descendant soit toujours obéissant envers toi, qu'ils accomplissent tes œuvres. Ainsi donc, en ayant bâti la maison de Dieu, on ne doit pas se soucier uniquement de sa personne, mais il est dit que pour remplir cette maison de Dieu, pour que l'on puisse profiter spirituellement de ses faveurs et pour que l'on puisse être obéissant envers Dieu, fasse qu'il y ait de telles personnes aussi parmi nos descendants. Voilà les prières du croyant. Voilà donc la leçon que l'on enseigne aujourd'hui. C'est-à-dire que la mosquée ne doit pas être liée uniquement avec des vieux, ou la mosquée ne doit pas être liée avec ceux qui sont au chômage, mais même ceux qui sont très occupés doivent sacrifier leur temps pour venir remplir cette mosquée et doivent établir cette relation entre la mosquée et leurs descendants, et que leurs descendants, que leurs enfants puissent aussi avoir ce désir pour rendre culte à Dieu. D'une part, l'on doit faire des efforts pratiques, mais l'autre grand moyen, c'est la prière. Allah connaît l'état des cœurs. Il est celui qui écoute les prières. Il écoute les prières faites en toute bonne intention. C'est pour cette raison que vous devez prier. Puisque nous sommes éveillés pour que nous puissions traduire dans la pratique les commandements de Dieu, pour que nous puissions suivre ses préceptes, que cela soit transmis de génération en génération. Si on est soi-même négligent concernant l'ibarda, concernant les préceptes de Dieu, eh bien, les autres générations seront négligentes à ce sujet. Ainsi, après chaque construction de mosquée, nous devons nous tourner davantage vers notre état et nous devons prier davantage. Nous devons aussi nous soucier concernant la tarbiya de nos descendants et de nos enfants. Les prophètes Abraham et Ismaël avaient prié « Arina manasikana wa tub alayna ». Cela attire notre attention concernant notre tarbiya et concernant nos ibarda. Cela attire aussi notre attention concernant le fait que nous devons réformer l'état de nos enfants. Manasikana signifie l'ibarda et cela concerne aussi toutes ces actions qui concerne Dieu et le devoir envers lui. Ainsi, nous devons accomplir l'ibarda, mais nous devons aussi accomplir le devoir envers Dieu. Après avoir accompli ces ibarda et après s'être acquitté de ces devoirs envers Dieu, l'on ne doit pas être fier en disant que nous avons accompli une grande action. Nous devons prier « Watub alayna », c'est-à-dire « Accepte notre repentir, retourne-toi vers nous. » Accepte notre repentir, et même si nous avons commis de petites fautes, eh bien, ferme les yeux sur ces fautes. Certainement, tu es celui qui accepte le repentir. Tu es le miséricordieux. Ainsi, lorsque l'on va prier soi-même, de façon constante, eh bien, l'on va atteindre l'objectif de la construction de ces mosquées. Et l'on va faire aussi de son mieux pour avoir le plaisir de Dieu. Et l'on va aussi faire des efforts pour que ses enfants puissent suivre cette voie. Et nous allons profiter de ces grandes faveurs, de ces grâces qui ont été accordés en résultat à l'exaucement des prières du prophète Abraham et du prophète Ismaël, des faveurs que Dieu a accordées à ce bas monde, des bénédictions qui ont embrassé le bas monde et qui ont apporté cette grande révolution dans le monde, une révolution qui a fait revivre ceux qui étaient morts, qui a fait couler de nouvelles sources de spiritualité. Une révolution grâce à laquelle l'on a atteint de hauts niveaux dans le domaine de l'ibarda, des stades que l'on n'avait pas vus ou entendus auparavant. Ainsi, le plus grand des prophètes a été envoyé, grâce auquel l'ibarda a atteint son apogée, grâce auquel la fidélité a atteint son apogée, et grâce auquel nos devoirs envers Dieu ont atteint leur apogée. Tout cela ont été exaucés par Dieu. Et en fin de compte, Dieu a fait dire à son grand prophète, son prophète bien-aimé, le Khatamul Anbiya, que Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire annonce au monde que certainement mes prières et mes sacrifices, ma vie et ma mort, tous ont été consacrés à Dieu, le Rabbul Alamin. Ainsi donc auprès de Dieu, l'ibada, les sacrifices et toute action doit atteindre ce niveau qui ont été ni vus ni entendus auparavant. Voilà donc l'apogée qu'avait atteint notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui a fait annoncer que pour avoir l'amour de Dieu, vous allez devoir maintenant suivre ce grand prophète. Sans cela, vous ne pourrez pas avoir le plaisir de Dieu. Voilà le modèle parfait pour vous. Le modèle dans le domaine de l'ibarda, des sacrifices. Et quant à ceux qui ont profité du pouvoir sanctifiant du saint prophète, ces personnes ont parcouru de nouvelles voies afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et cela, ils l'ont acquis en suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait ceux qui se consacraient à l'adoration de Dieu pendant toute la nuit et qui, pendant la journée, faisaient des sacrifices pour la cause de la foi. Ceux qui étaient morts spirituellement ont acquis une vie des plus sublimes. Voilà donc ce grand prophète qui a été envoyé jusqu'à la fin des temps pour tous les peuples et pour toute époque. Ainsi donc, ces faveurs sont là aujourd'hui. Cet exemple parfait est toujours brillant aujourd'hui, tout comme il l'était au premier jour. Ce grand enseignement apporté par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est en train de briller aujourd'hui encore. Et Dieu a accordé à ce grand prophète, à notre époque, ce serviteur parfait qui a été envoyé parmi les akhirines afin de continuer la tâche du saint prophète, c'est-à-dire de réciter les signes, de purifier les armes, de présenter les enseignements du livre et sa sagesse. Il est venu continuer cette tâche. Et les suivants de ce serviteur parfait ont fait en sorte que leurs ibadas et que leurs actions soient en accord à l'exemple de leur maître. Et ils ont mis en pratique les enseignements de l'islam avec une telle ardeur que les adversaires de l'Ahmadiyya ont été contraints de dire que si vous voulez voir l'exemple pratique des enseignements de l'islam, eh bien, regardez les Ahmadis. Ainsi, voilà l'exemple laissé parmi nos aînés. Non seulement qu'ils ont coulé le bec de nos adversaires, mais ils leur ont fait témoigner, à savoir que si vous voulez voir l'image pratique des enseignements de l'islam, eh bien, regardez les membres de la Jamaat Ahmadiyya. Voilà donc notre objectif. Aujourd'hui, voilà l'objectif sublime que nous devons avoir en tête. C'est ainsi que nous allons devoir fermer la bouche de ces gens. À travers nos bonnes œuvres, nous devons présenter les enseignements sublimes de l'islam et attirer le monde vers l'islam. Grâce à nos ibadats, grâce à nos prières, nous devons attirer les faveurs de Dieu. Et nous devons faire en sorte que nos enfants nous accompagnent dans l'accomplissement de ce but et qu'ils s'acquittent eux aussi de leurs devoirs. Et on doit établir cette relation entre eux et les mosquées. Et c'est là que nous allons nous acquitter de nos devoirs envers ces mosquées. Et c'est là que nous allons faire cette prière « Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim » et c'est là que nous allons profiter des faveurs de ces prières. Et c'est là que nous allons nous acquitter de nos devoirs envers le serment d'allégeance que nous avons prêté avec l'imam de l'époque. Et c'est là que nous allons suivre à la lettre les préceptes de ce prophète aimé par Dieu, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là aussi que nous allons pouvoir embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, ceux qui sont faibles parmi nous après la construction de cette mosquée doivent définir de nouveau les voies à suivre, des voies grâce auxquelles ils pourront s'acquitter de leur engagement. Ils doivent prouver qu'ils éprouvent réellement de l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, grâce à ces voies. Ils vont devoir attirer l'amour de Dieu. Quant à ceux qui sont dans une meilleure situation, quant à ceux qui prient régulièrement, quant à ceux qui viennent à la mosquée régulièrement, ces personnes doivent, elles aussi, atteindre les plus hauts niveaux dans ce domaine et doivent pour cela s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu et s'acquitter de leurs devoirs envers l'Ibad. Cette mosquée doit créer une révolution dans les membres de la Jamaat d'ici. D'après les renseignements que j'ai reçus dans la grande salle qui est ici, c'est une salle qui peut accueillir environ 760 personnes. Eh bien, on doit remplir cette salle de gens qui vont venir y prier. Et on m'a dit que la salle des dames peut accueillir 560 personnes et les deux salles peuvent accueillir environ 680 personnes. Ainsi donc, environ 2000 personnes peuvent prier dans cette mosquée. Mais cette possibilité doit maintenant se transformer au plus vite en certitude. Et c'est là que l'on va s'acquitter de ses devoirs envers cette mosquée et envers sa construction, qu'Allah vous en accorde la possibilité. Par la grâce de Dieu, ici au Royaume-Uni et en Europe, on est en train de bâtir des mosquées. Mais la beauté de ces édifices sont liés avec les personnes qui vont venir y prier. J'ai fait une analyse à ce sujet. En 2003, on a fait l'ouverture de la mosquée Baitul Futur. Avant cela, on n'avait qu'une seule mosquée, c'est-à-dire la mosquée Fazl. Après cela, on a ouvert 14 nouvelles mosquées ici au Royaume-Uni. Et 7 à 8 ans de cela, en Europe, on avait 13 mosquées. Maintenant, on a environ 57 mosquées, car il y a quelques mosquées qui sont en voie de construction. Et ainsi, on a construit 44 nouvelles mosquées en Europe au cours de ces dernières années, en Europe en général et en Allemagne en particulier. La beauté de ces mosquées n'est pas liée avec ces édifices, mais avec les personnes qui viennent y prier. C'est pour cette raison qu'encore une fois, aujourd'hui, je fais des rappels aux Ahmadis de l'Europe en disant que notre fierté ne doit pas se lier avec la construction de ces édifices. Le saint prophète avait fait une prophétie à ce sujet, à savoir que les gens seront fiers de la construction des mosquées. Mais les suivants du serviteur parfait du saint prophète ne doivent pas être fiers de la construction de leur mosquée. Certes, les autres musulmans peuvent en être fiers. Nous allons atteindre notre objectif lorsque nous allons remplir chacune de nos mosquées. Remplir ces mosquées à tel point que ces mosquées seront étroites. Que Allah nous en accorde la possibilité. Je vais évoquer quelques récits concernant les compagnons du Messie premier al-Salam, concernant leur désir, concernant l'Ibada, concernant leur concentration au cours de la prière. Hadrat Jan Mohammed Saheb, qui était le fils d'Abdul Ghaffar Saheb de Dasca, a déclaré qu'on faisait la prière de Maghrib sur le toit de la mosquée Mubarak. Mais il y avait Mirza Nizamuddin et quelques personnes qui s'étaient réunies dans la cour qui était à côté de la mosquée. Et ils étaient en train de fumer le narguilé. Mirza Nizamuddin était un parent du Messie premier l'Islam, mais était son adversaire acharné. Il ne s'intéressait pas avec les affaires de la foi. Il rejetait même l'existence de Dieu. Ainsi donc, ils étaient réunis à côté de la mosquée. Il y avait aussi de l'alcool et ils étaient assis sur des lits. Ces personnes étaient donc réunies à côté et lorsqu'il y a eu le premier takbir, ils ont commencé à frapper sur leur tambour et à commencer à jouer de la musique. Et les autres ont commencé à chanter afin de déranger ceux qui étaient en train de prier. Mais nous étions complètement concentrés dans la prière et nous ne pensions même pas à ce qu'ils faisaient. Ils continuaient à jouer à la musique, mais nous continuions à prier. Et nous ne sommes pas déconcentrés. Hadrat Hakim Ali Saheb a évoqué les changements qu'il y a eu en sa personne après son allégeance au Messie promis à l'Islam. Il a déclaré que l'amour pour le Messie promis m'avait rendu complètement fou. Et tous les mois, je me présentais au Messie promis à l'Islam. Ainsi donc, j'ai passé ma vie à visiter le Messie premier l'Islam. J'avais bâti une toute petite mosquée à côté de ma maison et je partais pour la prière de Tahajjud et je retournais à la maison après la prière d'Isha. Ainsi donc, je passais environ 20 à 22 heures dans la mosquée et je jeûnais, je ne mangeais qu'une seule fois par jour, mais je n'avais ni faim ni soif. Et je passais tout mon temps dans la récitation du Saint-Coran, dans la prière. J'étais très content. Et ainsi, lorsque je priais et lorsque je concentrais concernant un point, Dieu me révélait cela à travers des visions. C'est pour cette raison que j'avais un très grand amour pour Dieu, pour le Saint-Coran, pour le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais une foi ferme dans le Messie premier l'Islam. Il y a nombre de personnes qui sont venues ici, qui ont demandé l'asile ici, qui sont âgées et qui sont assis, qui ne font rien. Ils doivent consacrer leur temps dans la prière au lieu de gaspiller leur temps. Voilà donc le niveau que l'on doit atteindre dans le domaine de l'ibada. Hadrat Mir Mahdi Hussein Sahib rapporte que il y avait trois compartiments dans la mosquée Mubarak. La mosquée était toute petite et il n'y avait que deux rangs dans chaque compartiment. Et six personnes pouvaient se mettre dans le fin rang. Il y avait une toute petite cour à côté de la mosquée et c'était la maison de Hadrat Ummul Mominin. Le rapporteur déclare que ce jour-là, il y avait deux compagnons du Messie promis qui étaient assis là-bas avec du repas. Malik Saheb m'a offert du riz et m'en a donné. Et m'a offert aussi du pain. J'ai commencé à manger et c'est là que le Maulvi Abdul Karim a commencé à diriger la prière. J'ai posé le repas et je suis entré dans la mosquée. Celui qui m'avait offert le repas s'est adressé à moi en colère en disant « Mangez, après vous allez prier ». Il a dit que sinon vous allez mourir de faim. Il a dit que ce n'est que le lendemain que vous allez manger. Je lui ai dit que je ne suis pas venu ici pour manger, je suis venu pour la prière et je ne peux pas abandonner la prière. Et je suis parti pour la prière d'Isha. Hakim Fazlur Rahman rapporte des incidents concernant son père. Hadrat Hafiz Nabi Bakhshi a déclaré qu'il avait un très grand amour pour le Messie premier l'Islam. Il était très précautionneux à l'égard du Messie promis l'Islam. Lorsqu'on lui demandait de présenter quelques faits concernant le Messie promis, il disait que « Je n'ai pas confiance en ma mémoire. J'ai peur d'attribuer quelque chose d'erroné au Messie promis l'Islam. » Il travaillait pour le département des eaux et il devait faire des tournées durant toute la journée. Et même lorsqu'il faisait très chaud, Même quand il faisait très chaud, il devait faire des tournées dans le Pendjab. Et certainement, il était très fatigué. Mais la nuit, il se levait pour la prière d'Arjoud et nous encourageait à nous lever pour la prière. Au cours du Ramadan, en dépit de la chaleur, il jeûnait régulièrement. Et durant l'hiver, il se levait pour la prière d'Arjoud et récitait le Saint-Coran à voix haute et faisait en sorte que ses enfants prient avec lui. Par la grâce de Dieu, il avait mémorisé le Saint-Coran. Il nous encourageait à prier et à jeûner. Il nous surveillait de très près. Et il était très en colère si nous étions négligents. Il nous a même enseigné le Saint-Coran. S'il ne trouvait pas le temps pendant la journée, eh bien, il nous enseigne le Saint-Coran pendant la nuit. Voilà un exemple pour les parents. Voilà l'exemple que nous devons suivre pour la tarbiya de nos enfants. Et si les parents vont prier ainsi, leurs enfants vont suivre leur exemple. Ici en Occident, les gens sont en train de s'éloigner de la foi. Et nos enfants aussi sont influencés par cela. C'est pour cette raison qu'il est très important de faire davantage d'efforts ici. Non seulement que l'on doit être ferme dans sa foi, mais l'on doit progresser dans ce domaine. Et l'on doit surveiller de près ses enfants. On doit faire leur éducation morale à ce sujet. Si des personnes de 40 ou de 45 ans sont en train de regarder la télé jusqu'à tard dans la nuit, il y a leurs épouses qui font des complaintes à ce sujet, ou s'ils restent assis devant l'Internet jusqu'à tard dans la nuit, comment pourront-ils faire l'éducation de leurs enfants? Ainsi, les Ahmadis d'ici en particulier et les Ahmadis dans le monde entier doivent faire face à ce défi. Car Satan a dépassé les limites dans ses œuvres et nous allons devoir le combattre. Et cela ne pourra pas se faire sans l'aide de Dieu. Et on pourra avoir l'aide de Dieu grâce à l'Ibarda. C'est pour cette raison que l'on doit être vigilant à ce sujet. Cheikh Nuruddin a évoqué sa conversion et a déclaré qu'après quelque temps, je suis venu à Amritsar. Là-bas, en raison de mon business, j'étais négligent concernant la foi. Un jour, je me suis endormi pendant une journée d'été et je suis passé par des affres de la mort. C'était comme si j'étais sur le point de mourir. Et il s'est vu dans un rêve. Il entendait la conversation des gens mais ne pouvait pas répondre. Et il a regardé ce qui s'est passé. On lavait son corps ou sa dépouille. Et on lui a fait porter le linceul. Ensuite, on m'a enterré et on a jeté de la terre sur moi. Lorsque les gens sont retournés, ma tombe m'a serré des deux côtés et je ne pouvais plus endurer cela. Et ensuite, j'ai vu le Messie premier linceul qui était devant moi. Et il m'a pointé du doigt. Il a déclaré que « Est-ce la promesse que vous avez faite avec nous ?» D'une part, je souffrais, d'autre part, j'ai beaucoup pleuré en raison des paroles du Messie promis. J'ai dit « J'ai oublié, pardonnez-moi, je me repens. À l'avenir, je ne serai point négligent. » Et le Messie premier l'Islam est parti. J'ai ouvert les yeux. Je suis retourné en ce monde, mais j'étais tout effrayé et j'étais très peiné. Et je commençais à pleurer et j'étais complètement abasourdi. Je me suis tourné dans la direction du Qibla et j'ai commencé à prier. Cet incident avait de l'effet sur moi et je ressentais cette peine et cette souffrance. Ainsi donc, ces pieux compagnons du Messie premier l'Islam qui étaient coupables de négligence ont été avertis par Dieu. C'est ainsi qu'Allah a éprouvé de l'amour pour eux. Il ne les a pas laissés se pervertir. Ensuite, il y a un exemple pour les femmes. Certaines présentent des excuses et ne sont pas régulières dans les prières. Dans certains cas, elles présentent des prétextes. Il y a certaines qui présentent des prétextes, mais il y a d'autres quand même qui prient avec plus d'attention que les hommes. Il y avait une certaine Maïka Kousareba qui a déclaré que nous étions partis voir le Messie premier l'Islam. La mère du Molvi Kamruddin a déclaré que quotidiennement, Nous combinons la prière de Maghrib avec la prière d'Isha en raison de nos occupations. Demandons une fatwa au Messie Premier Salam à ce sujet. J'ai dit au Messie Premier Salam que les femmes sont très occupées en raison de leurs enfants et n'arrivent pas à faire la prière de Maghrib à l'heure prescrite. Le Messie Premier Salam a déclaré que je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas comment on pourra être en retard si on fait de son mieux. Mais si vous avez des contraintes, eh bien, vous allez devoir combiner la prière d'Isha avec la prière Maghrib. Tout comme les anges viennent à l'heure de l'aube, les anges viennent au crépuscule. Si vous devez combiner ces deux prières, eh bien, faites ces deux prières à l'heure de la prière de Maghrib. Cette dame a ensuite dit que, après sa déclaration du Messie Premier Islam, nous faisons de notre mieux de préparer le repas avant la prière de Maghrib, de nourrir nos enfants avant la prière de Maghrib et de partir pour la prière. Voilà donc l'exemple de ces dames. Elles n'étaient pas intéressées à combiner leur prière, mais ont suivi ces préceptes. Et les mères sont des exemples pour leurs enfants et doivent être vigilantes à ce sujet. Le Messie promis à l'Islam déclare, l'Islam nous présente ce Dieu qui est tout puissant, ce Dieu qui est exempt de tout défaut. Un Dieu que l'on peut implorer, un Dieu qui peut exaucer nos grands espoirs. Et il nous a enseigné cette prière de la Sourate Al-Fatiha. Il nous dit de l'implorer. Ehdina Sourate Al-Mustaqim, Sourate Al-Ladina Anamta Alayhim. C'est-à-dire, notre Seigneur, guide-nous sur la voie qui est droite, la voie de ceux à qui tu as accordé tes grandes faveurs et tes grandes grâces. Et il nous enseigne cette prière afin que nous ne contentions pas de dire que nous avons cru, mais pour que nous puissions accomplir ces actions pour mériter ces faveurs qui ont été accordées à ceux qui ont été proches de Dieu. Quant à celui qui se tourne vers Dieu avec un cœur sincère, et qu'il soit empli d'ordre, eh bien, cette personne ne partira point à la perdition. C'est une certitude. Dieu appartient à ceux qui appartiennent à Dieu. Et Dieu leur accorde son soutien dans chaque domaine. Au contraire, Dieu leur accorde tellement de faveurs que les gens profitent des bénédictions de leurs vêtements. Dieu nous a enseigné cette prière, Ehdina Sirat al-Mustaqim, afin que nous puissions ouvrir les yeux et afin que vous puissiez voir les résultats de vos actions. Ensuite, le Messie promis déclare que si vous accomplissez une action, mais si vous ne voyez pas de résultats, eh bien, vous allez devoir étudier vos actions, voir quelles sont ces actions, que je suis en train d'accomplir des actions qui ne portent pas de fruits. En évoquant le résumé du principe de la foi, il déclare que on doit se mettre debout comme si on est en train de voir Dieu, ou que tout au moins que Dieu est en train de nous voir. On doit se débarrasser de toute impureté, de toute forme de shirk, et on doit avoir en tête la raboubia de Dieu. Et on doit implorer Dieu grâce à ses supplications. On doit faire le torba, l'istighfar. On doit évoquer ses faiblesses afin que l'on puisse se purifier l'âme, afin que l'on puisse établir une vraie relation avec Dieu, afin que l'on puisse se plonger en l'amour de Dieu. Ceci est le résumé de la prière. Tout cela est évoqué dans la sourate Al-Fatiha. On dit « Yakan Abodo wa Yakan Stein » et on évoque ses faiblesses et on implore l'aide de Dieu. Et on demande à Dieu de nous accorder son soutien. Et ensuite, on lui demande de nous faire marcher sur la voie des prophètes et des rasouls. Et on lui demande de nous accorder ses faveurs qui ont été accordées à ce monde par l'entremise des prophètes. Des faveurs que l'on reçoit après avoir suivi les prophètes. Ensuite, on demande à Dieu de nous protéger de ces voies, de ceux qui ont rejeté tes prophètes et ceux qui ont été arrogants, ces personnes qui se sont attirées la colère sur ce bas-monde, ou ces personnes qui ont cru que ce bas-monde est leur objectif final et qui ont oublié la vraie voie. Le but de la sola est la prière, et on doit prier pour qu'on ait cette sincérité en soi. pour qu'on ait cet amour pour Dieu, pour que l'on se protège du péché, ces péchés qui noircissent les actions. C'est pour cette raison que l'on doit prier pour avoir l'aide de Dieu et l'aide de l'Esprit Saint. On doit accorder préférence à Dieu sur l'honneur de ce bas monde, sur les richesses de ce bas monde. On doit accorder plus d'importance à Dieu. Quant à ceux qui suivent des légendes qui n'ont pas été évoquées dans le livre de Dieu, ces personnes sont des menteuses. Là, cela est une supplication. Une supplication selon la méthode qu'on nous a enseignée. Des fois, on se met debout. Des fois, on doit se courber. Des fois, on doit se prosterner. Et il y a d'autres qui n'ont pas compris ce principe. Et il y a d'autres qui partent à la mosquée, qui prient certes et qui mettent en pratique les autres préceptes de l'islam, mais qui ne sont pas accompagnés du soutien de Dieu. Et on ne voit pas de changement dans leurs habitudes, dans leur état moral. Et cela prouve que leur ibada ne sont que traditions. Il n'y a aucune vérité derrière tout cela, car suivre les commandements de Dieu est comme planter une semence. Une semence qui a de l'effet sur l'âme et sur le corps. Celui qui irrigue son champ et qui plante ses semences, si après quelques mois il ne voit pas des germes pousser, cette personne doit accepter que la semence est mauvaise. Voilà l'état de l'ibada. Si on accepte que Dieu est unique et sans partenaire, si l'on prie, si l'on jeûne, si apparemment on est en train de faire de son mieux pour suivre les commandements de Dieu, mais qu'on ne reçoit pas le soutien de Dieu, eh bien, l'on doit accepter que la semence que l'on a plantée est mauvaise. Ces mêmes soins-là ont transformé nombre de personnes en saints. Mais pourquoi vous qui êtes en train de prier, vous ne subissez pas leur effet? Si vous utilisez un médicament, mais qu'après quelques temps, vous n'en ressentez pas les effets, vous allez devoir accepter que cette prière n'est pas efficace. Il en est de même pour ces soins-là. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre ce message et que nous puissions vivre selon ses préceptes. Qu'Allah nous accorde l'occasion de lui rendre culte de la meilleure façon, que nous puissions avoir son plaisir.